Bonsoir. Une journée globalement calme, même si tout est relatif, le 14e acte des Gilets jaunes, marquant les 3 mois du mouvement, a de nouveau rassemblé des milliers de personnes dans tout le pays et suscité quelques violences, notamment à Paris, où les manifestants sont en voie de dispersion. 3 personnes ont été blessées à Rouen par un automobiliste énervé. La permanence d'un député La République En Marche saccagée au Mans. Des milliers de Kurdes dans les rues de Strasbourg, en hommage à leur chef historique Öcalan, emprisonné en Turquie. Ils appellent l'Europe à sortir de son silence. À Barcelone, ils ont été 200 000 manifestants indépendantistes pour dénoncer le procès de leur leader, actuellement jugé à Madrid, et pour réclamer à nouveau la constitution d'une république catalane autonome. Dans ce journal également, la mort de l'acteur suisse Bruno Ganz, dont l'interprétation d'Hitler dans le film La Chute avait marqué les esprits. Il avait 77 ans. Le métier de youtubeur, pas donné à tout le monde. Christine Simeon, dans sa vie connectée, nous expliquera pourquoi. Et puis le beau temps qui continue, le printemps s'installe et les températures restent bien supérieures aux normales saisonnières. C'est devenu un rituel du samedi. Le 14e épisode du mouvement des Gilets jaunes a de nouveau mobilisé des milliers de personnes dans tout le pays. De nombreux rassemblements avaient été convoqués un peu partout, débutés dans le calme, comme à chaque fois, et gâchés sur la fin par des casseurs, au Mans notamment, où à nouveau la permanence d'un député de La République En Marche a été saccagée. Sur un mur était écrit « Pas de député et pas de président ». À Toulouse, à Bordeaux et à Paris, la situation s'est également tendue en fin d'après-midi, notamment sur la place des Invalides à Paris, mais le défilé se sera globalement passé sans dommage. Delphine Evenou, rien de comparable avec les semaines précédentes.
Oui, pour ce 14e samedi de mobilisation, c'est un scénario très classique qui s'est déroulé dans la capitale. Rassemblement en fin de matinée sur le rond-point de l'Arc de Triomphe, circulation perturbée, puis défilé dans les rues, et qui a emmené les Gilets jaunes du Pont-Neuf à Montparnasse jusqu'aux Invalides. Plusieurs heures de parcours dans le calme et sous le soleil. André, 69 ans, sans chasuble, mais fidèle au poste.
C'est la 13e que je fais parce que j'ai pas fait celle de Noël et du jour de l'an. Mais je vais faire celle de demain, entre Étoile et le champ de Mars. J'ai travaillé toute ma vie et je suis obligé de travailler. J'ai travaillé dans les finances et là je travaille à la ville de Paris, aux sorties d'école. Vous voyez ? Je le fais pas par plaisir.
Le pouvoir d'achat, l'éducation, la démocratie, les revendications sont les mêmes, nombreuses, un peu trop d'ailleurs selon Jean-Paul, venu pour la journée de Normandie.
Au départ, il y avait c'était bien ciblé les choses à faire, mais maintenant ça, le problème, les revendications, c'est que ça s'éparpille de trop. Il faut revenir à ce qui était dit dès le départ, et là, je pense que ça va regrouper des gens.
Comment faire tenir la mobilisation? Cette fois, les Gilets jaunes sont appelés à manifester encore demain. Et si le nombre diminue selon la place Beauvau, se stabilise selon les manifestants, ce n'est pas forcément un essoufflement, analyse Amélie.
Si ça stagne, c'est un petit peu normal. À la limite, c'est bien, c'est que ça se pérennise, ça tourne. Il y a des gens qui ne peuvent pas tous les samedis, c'est d'autres personnes qui les remplacent.
Impossible en tout cas d'arrêter de descendre dans la rue, explique Sandrine.
Faut pas qu'on lâche parce que je crois que c'est la dernière fois qu'on a la chance de se soulever comme ça. Donc il faut surtout pas lâcher, parce que si jamais on lâche, ça va être terrible pour nous après.
Et ce, malgré les gaz lacrymogènes et les grenades assourdissantes, vous le disiez Yves, qui se sont répandues vers 17h, réponse aux jets de projectiles. Un homme a été blessé à l'épaule par un tir de flashball selon l'équipe médicale des Gilets jaunes. Une demi-heure de tension avant que les manifestants ne s'éparpillent tranquillement dans les rues adjacentes.
Et notamment du côté des Champs-Élysées en ce moment même. Delphine Evenou avec Georges Thaud. Une mobilisation globalement en baisse selon les chiffres du ministère qui a compté dans les 3000 manifestants à Paris contre 4000 la semaine dernière. Chiffre toujours contesté par les Gilets jaunes. 23 personnes ont été interpellées. C'est le même scénario qui s'est reproduit en de nombreux endroits, avec notamment un incident à Rouen où un automobiliste a tenté de traverser le cortège et s'est retrouvé bloqué avant de forcer le passage en percutant 4 personnes. L'un des manifestants témoins raconte la scène à Sixtine Lys.
Oui, il marchait tranquillement, tout se passait bien. Bon, il y avait des voitures qui attendaient pour passer, mais elles attendaient normalement au feu, donc ils voyaient bien qu'il y avait un cortège. Et à un moment donné, il y a une sorte de mouvement de foule, et j'ai vu une voiture arriver, bloquée, ça a commencé à s'énerver. Moi, j'étais à 10 mètres de l'action, il était sur la file de gauche. Sur la file de gauche, il pouvait passer tranquillement, il n'y avait aucun problème. Et à un moment donné, il a foutu un coup de volant, il a accéléré pour nous rentrer dedans. Et j'ai vu 3 gilets jaunes volant en l'air. Donc avec les mouvements de foule, je comprends qu'on peut paniquer quand on est conducteur. Il faut simplement prendre son mal en patience et laisser le cortège passer. Je ne comprends pas, le conducteur délibérément, il a accéléré pour nous rentrer dedans.
Voilà, trois personnes au final ont été légèrement blessées. L'automobiliste s'est rendu au commissariat où il a été bien sûr placé en garde à vue. Un incident à Rouen, des bouchons sur la 7 à Lyon où des gilets jaunes avaient perturbé le trafic. Farid Anouar, revue de détails avec vous de cette nouvelle journée de mobilisation.
Avec des manifestations plus ou moins suivies et pour la majorité calmes, mais avec des incidents. Au Mans, la permanence du député LREM de la Sarthe, Damien Pichereau, a été détruite par des casseurs. Il n'était pas sur place au moment des faits. Une personne a été interpellée par les CRS. Acte de violence aussi à Nantes, en Loire-Atlantique, avec des panneaux publicitaires brisés à l'aide de marteaux et de cailloux en marge du rassemblement qui a réuni là plusieurs centaines de manifestants. Défilé dans le calme à Toulouse avec des milliers de personnes, quelques échauffourées cependant en fin de cortège et du gaz lacrymogène. Direction Lyon maintenant où des gilets jaunes là ont bloqué pendant près de 2 heures le trafic sur l'autoroute A7 à la sortie sud de la ville, ce qui a provoqué des difficultés de circulation ce week-end de chassé-croisé sur les routes. Le trafic a repris vers 17h30. À Bourg-en-Bresse, la manifestation régionale appelée par certains gilets jaunes l'a fait flop avec environ 600 manifestants. Un important dispositif policier avait été mis en place pour interdire aux manifestants l'accès au centre-ville. 5000 manifestants recensés à Bordeaux, manifestations aussi à Grenoble, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Lille ou Nantes, sans incident.
Et à l'instant, les derniers chiffres du ministère, 41 500 manifestants aujourd'hui en France, dont 5 000 à Paris, donc un peu moins que la semaine dernière sur tout le pays. Et à propos de la permanence du député de la Sarthe saccagé au Mans, dont une vitrine avait d'ailleurs déjà été cassée la semaine dernière, le député Damien Pichereau, qui n'était pas sur place, a raconté ce qu'il savait à France Info.
Ça fait plusieurs semaines qu'on reçoit des menaces de mort, donc ce qui fait que quand il y a des manifestations, j'essaie de ne pas être sur place. Ce qu'on m'a raconté, c'est qu'il y a un groupe d'individus plutôt jeunes qui s'en est pris de manière très rapide à ma permanence et qui a intégralement saccagé l'intérieur, l'ensemble des vitrines. Les murs ont été non seulement tagués, mais il y a également des trous dans les murs. Le mobilier intérieur a été cassé également. J'ai pas encore fait le point complet. J'ai une partie de mon équipe qui s'est rendue sur place rapidement. Et puis également les forces de l'ordre qui sont sur place pour faire les relevés qui s'imposent. Permanence évite tous les samedis et heureusement, parce que sincèrement, aujourd'hui c'est du matériel. C'est toujours dommage, mais j'ose même pas imaginer ce qu'ils auraient fait s'il y avait quelqu'un à l'intérieur vu la violence.
Voilà, des vitres du tribunal du Mans ont également été cassées. Le commissariat également ciblé. Ce 14e samedi de mobilisation pourrait avoir une suite demain dimanche, au 3e mois, jour pour jour, de la contestation qui avait démarré le 17 novembre. À Strasbourg, rien à voir avec les gilets jaunes. Ils ont été plusieurs milliers de Kurdes dans les rues pour la manifestation européenne annuelle en l'honneur de leur chef historique, Abdullah Öcalan, emprisonné depuis 20 ans en Turquie, mais aussi cette année pour le soutien à une députée Kurdes en grève de la faim. 7 à 17 000 personnes, selon les sources, sont venues dans le calme, appeler de nouveau l'Occident et l'Europe en particulier à sortir de leur silence. Viloen Munoz-Boileau à Strasbourg.
Libérer Öcalan, c'est le slogan repris en boucle par les milliers de Kurdes qui ont défilé cet après-midi dans les rues de Strasbourg. Au milieu des drapeaux et des banderoles à l'effigie d'Abdullah Öcalan, Acelia défile en famille. Elle a fait le trajet depuis Paris.
Je suis là pour protester contre déjà l'arrestation de monsieur Abdullah Öcalan, donc leader du peuple kurde qui a été arrêté le 15 février 1999. Il est en isolement carcéral, donc on est beaucoup inquiet de son état de santé. Donc je reviens tous les ans ici à Strasbourg pour manifester contre l'arrestation de monsieur Öcalan.
Comme elle, les Kurdes sont venus des quatre coins de l'Europe pour soutenir leur leader. Et ce n'est pas un hasard si ce rassemblement annuel a lieu à Strasbourg, capitale européenne. Hélène Erin, porte-parole des Kurdes d'Alsace.
On demande au Conseil de l'Europe, les 47 pays, de faire le nécessaire, prendre leurs responsabilités pour que la Turquie elle respecte les droits fondamentaux de monsieur Öcalan, c'est-à-dire de voir ses avocats et aussi voir sa famille.
Et malgré le silence de la communauté européenne, les Kurdes gardent espoir et assurent qu'ils continueront de se battre pour leur leader qui fête cette année ses 70 ans.
L'arrestation d'un suspect à Paris après le jet d'un produit toxique sur un passager du métro. Un homme a été placé en garde à vue hier soir à la brigade des réseaux franciliens. Un jeune de 20 ans avait été gravement brûlé au bras et au visage après ce qui ressemble à une dispute entre personnes sans abri. Et puis il avait disparu avec son fourgon blindé et plus de 3 millions d'euros. Le convoyeur de fonds interpellé dès le lendemain de sa fuite à Amiens a été présenté ce samedi à un juge d'instruction en compagnie de sa complice présumée. Le parquet de Paris Syrie a requis leur mise en examen et leur placement en détention. Un peu plus de la moitié du butin n'a pas été retrouvé.
Le journal de 19h sur France Inter.
Il avait fait l'ange pour Wim Wenders dans Les ailes du désir et joué Hitler dans La chute. C'est dire l'étendue de sa panoplie. L'acteur suisse Bruno Ganz est mort ce matin à Zurich à 77 ans. Très connu du public germanophile, il avait reçu en 96 l'anneau d'Iffland, la plus haute distinction du théâtre de langue allemande. Et depuis ce matin, les hommages se multiplient, notamment à Berlin où se conclut ce soir la Berlinale, l'un des plus importants festivals du film avec Venise et Cannes. David Philippot à Berlin.
Dans un Berlin en ruine, Bruno Ganz incarne un Adolf Hitler emmuré dans son bunker, halluciné, pathétique et paranoïaque. Son rôle dans La chute va le hanter plusieurs années, une prestation remarquable qui lui vaudra hommage et récompense. Mais c'est au théâtre que Bruno Ganz aura d'abord fait l'étalage de tout son talent. Cet autodidacte complet aura interprété tous les plus grands rôles du répertoire en langue allemande, de Faust au Prince de Hombourg. Les férus de cinéma avaient déjà remarqué sa prestation dans Les ailes du désir de Wim Wenders au début du film.
Als das Kind Kind war.
C'est sa voix qui lit le poème de Peter Hanke.
Ging es mit hängenden Armen.
Il incarne l'ange Damiel, l'ange gardien, les pieds au bord du vide, qui veille sur les Berlinois avant la chute du mur. Rien ne doit l'empêcher à présent de rejoindre le ciel au-dessus de Berlin, a commenté le directeur de la Berlinale, qui lui rendra hommage ce soir pendant la remise des prix. Berlin, David Philippot pour France Inter.
Et de son côté, la secrétaire d'État allemande à la culture salue une icône du théâtre germanophone. Autre disparition ce samedi d'un autre comédien, l'acteur de théâtre Serge Merlin, connu notamment pour ses interprétations de Thomas Bernhard, Beckett ou Shakespeare. Il avait également joué dans des films comme Amélie Poulain, Un peuple et son roi. Serge Merlin est mort ce matin à Paris. Il avait 86 ans. Un ancien cardinal américain défroqué par le Vatican, c'est une première. L'ancien archevêque de Washington, Theodore McCarrick, accusé d'abus sexuels sur mineurs, est rendu à l'état laïque par le pape François, qui met donc en pratique ses promesses de tolérance zéro. Après le témoignage d'un homme qui disait avoir été abusé sexuellement par le prélat quand il était adolescent dans les années 70, le Saint-Siège avait demandé une enquête à l'église américaine, enquête dont étaient ressortis des indices graves. Le retour à l'état laïque, c'est la peine maximale prévue par le droit canon à l'encontre d'un clerc, et l'accusé aujourd'hui âgé de 88 ans, ne peut donc plus exercer son ministère de prêtre. Des milliers de Catalans pro-indépendantistes qui manifestent, ils s'étaient donné rendez-vous au cœur de Barcelone ce samedi pour dénoncer le procès, actuellement en cours à Madrid, procès de leurs 12 leaders séparatistes, mais aussi pour réclamer la République catalane autonome qu'ils attendent depuis plus d'un an et demi. Une véritable démonstration de force pour faire pression sur leurs responsables politiques. Mélanie Nunes à Barcelone.
C'est une vague jaune et rouge qui s'étend sur la Grande Via de Barcelone, l'artère principale de la capitale catalane. Des centaines de drapeaux au vent, ornés de l'étoile bleue et un seul mot d'ordre, indépendance. Marta, 42 ans, vient d'un village près de Gironde. Elle porte un message au feutre noir sur son manteau, République en construction.
Il faut que l'Europe nous entende bien. Nous n'allons pas nous arrêter jusqu'à ce qu'on l'obtienne. C'est nous qui allons décider, ce n'est pas eux, les élites économiques.
Jordi père, 48 ans, et fils, 13 ans, sont venus en famille à plus de 2 heures de Barcelone. Dans leurs mains, la même banderole, l'autodétermination n'est pas un délit.
C'est cette génération qui connaîtra la République.
J'espère que je la vivrai.
On attend le verdict du procès d'abord et après on fera ce que le peuple veut.
À 56 ans, Jaime souhaite taper fort. Il résume la situation en un mot.
Critique, oui. Je crois qu'on est un peu désemparés. Le peuple sait ce qu'il veut. Ceux qui ne savent pas, ce sont les leaders politiques. De nouvelles élections vont être convoquées. Si la droite passe, ça sera encore plus dur pour nous.
Une alliance du centre, de la droite, voire de l'extrême droite, qui pourrait se renforcer en Catalogne. Les unionistes seront à leur tour demain dans la rue pour faire barrage à cette tentation séparatiste. Barcelone, Mélanie Nunes, France Inter.
En Argentine, une journée d'hommage à Emiliano Sala, le footballeur dont l'avion s'était crashé dans la Manche le 21 janvier a été rapatrié dans son village à Progreso, un village de 3000 habitants qui le connaissaient tous et qui sont venus se recueillir dans le gymnase transformé en chapelle ardente. Georges Quirino, reportage.
La banderole « Emi nunca caminara solo ». Emiliano, tu ne marcheras jamais seul, est accroché en face du gymnase de Progreso. Là où Emiliano Sala a débuté sa carrière, là où a lieu aujourd'hui son dernier hommage. Les habitants du petit village sortent de l'endroit bouleversé. Son ancien agent, Nicolas Higuaín, est lui aussi ému.
Emiliano, C'est une personne magique pour moi parce qu'il a travaillé beaucoup pour arriver à jouer à premier niveau. Comme personne, comme garçon, c'est un très très bon, très bon match.
À l'intérieur, de grands draps blancs recouvrent les murs. Une photo du joueur avec le maillot nantais. L'inscription « Ton héritage sera éternel » à côté du cercueil. Des couronnes de fleurs de tous ses anciens clubs et des représentants de Cardiff, là où il aurait dû jouer, l'entraîneur Neil Warnock.
You can't understand the emotions of the family, but...
On ne peut pas comprendre l'émotion de la famille, mais aujourd'hui ils sont tous unis. Pas seulement la famille, tout le village est uni. Il est rentré à la maison et on voit à quel point la famille est importante. C'est très émouvant d'être ici.
Plus discret, son ami et défenseur du FC Nantes, Nicolas Palois, est aussi présent, comme une délégation des Girondins de Bordeaux, ses anciennes équipes, pour un ultime adieu. Progresso, Georges Quirino, France Inter.
Et un nouvel hommage lui sera rendu demain justement par les joueurs nantais qui se déplacent à Monaco. En Ligue 1 de football, l'OM qui poursuit sur sa lancée 2-0 à l'instant contre Amiens. Thauvin et Balotelli, troisième victoire de suite pour l'OM. Dans le top 14, Clermont l'emporte à Bordeaux-Bègles 40-15 et prend provisoirement la tête en attendant le déplacement du stade toulousain au Racing. Et puis en ski alpin, Michaela Schifrin seule au monde. Au Mondiaux d'Arrée en Suède, l'américaine remporte son quatrième titre d'affilée en slalom, c'est un record. Allez, n'est pas le roi du buzz qui veut. Aux jeunes qui rêvent d'être youtubeurs comme d'autres veulent être footballeurs, voici quelques précisions à connaître sur la vraie vie de ces as de la vidéo. C'est votre vie connectée. Christine Siméon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous vous êtes penchée sur le cas de la chaîne YouTube au nom ironique. Tout le monde s'en fout. D'autant plus ironique qu'elle compte 480 000 abonnés et que ses vidéos font parfois près d'un million de vues.
Je voudrais bien remettre la main sur un truc qui se perd. Les valeurs.
Et tout le monde s'en fout, s'intéresse à tous les sujets de société, d'environnement, bien sûr d'éducation. Marc Debony, qui en est le fondateur, a choisi de sortir Tout le monde s'en fout de l'écran et d'aller à la rencontre des jeunes. Pourquoi ? Pour leur apprendre à se raconter dans des vidéos, à utiliser cet outil, mais sûrement pas pour leur promettre le paradis en devenant absolument youtubeur. Écoutez Marc Debony.
Il y a toute une réalité derrière, effectivement, professionnelle, beaucoup moins glamour, beaucoup moins brillante que l'image de Norman ou Cyprien qui se lèvent un matin, encore une fois, qui font une vidéo et qui deviennent riches. En fait, c'est beaucoup plus complexe. Et surtout, il faut avoir en tête que c'est très, très, très mal payé. Hein. Mais il faut savoir que c'est même gagner un SMIC, c'est très difficile.
Oui, et faire des vidéos réclame des compétences. Faut-il le rappeler ? Ce n'est pas forcément un métier à part entière, d'ailleurs. Et en plus, on est à la merci du nombre de clics, pas d'avenir.
C'est pire que cela. On est aussi à la merci des algorithmes, on le sait. Exemple, le clip sur l'éducation sexuelle proposé par Et tout le monde s'en fout a été invisibilisé par les filtres de YouTube.
Les gens, en général, souvent vont regarder qu'est-ce qui est en tendance aujourd'hui et compagnie. Donc, systématiquement, nos vidéos sont prises là-dedans. Sauf celles qui touchent à la sexualité et spécifiquement à la sexualité féminine. Pour des raisons très simples, hein, qui sont des questions de mots-clés. Mais le problème, c'est que nous, on fait pas un contenu à caractère sexuel, on fait un contenu à caractère plutôt informatif, sociétal. Par exemple, on a traité la question du clitoris et de la représentation du clitoris, que ce soit dans l'enseignement, dans l'espace public et compagnie. Et il y a rien, vraiment rien de problématique ou qui puisse heurter la sensibilité des mineurs dans cette vidéo. Pourtant, elle a été invisibilisée, c'est le cas de le dire, des réseaux.
Ce qui est sûr, c'est que si tu considères la sexualité comme un truc sale et tabou,
c'est qu'il y a des chances pour que la tienne le devienne aussi.
Comme dit Marc Debony, être youtubeur, ce n'est pas l'Eldorado. Il travaille maintenant à la création d'une fédération des créateurs vidéo pour essayer de structurer ce métier qui n'en est pas encore tout à fait un.
La vie connectée de Christine Siméon, à retrouver bien sûr sur France Inter. Inter.fr, le temps.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Les bonnes nouvelles de Jean-Michel Golinski.
Pas de changement en vue pour cette journée de dimanche, avec toujours de la douceur l'après-midi et les brouillards assez répandus dans la moitié nord seront suivis d'un temps généralement tout bleu sur la plupart des régions, sauf comme aujourd'hui sur l'ouest de la Bretagne où les nuages océaniques vont conserver la main avec possiblement des pluies faibles en fin de journée. Et puis dans le golfe du Lion, le vent marin toujours bien sensible va maintenir une grisaille tenace et même humide en fin de journée au pied des Cévennes. Au lever du jour, hormis près de la mer, on ne sera pas à l'abri de faibles gelées. En journée, les valeurs confortables et sensiblement équivalentes à celles d'aujourd'hui vont indiquer 15 degrés en moyenne dans la moitié nord, le nord-est en Rhône-Alpes et près de la Méditerranée, 16 à 18 dans le quart sud-ouest sur le Berry et le Morvan, 20 degrés sur l'Auvergne et 22 dans le Pays Basque.